ma sœur, mesdames, mesdemoiselles, lorsque nous nous élevons à la contemplation de Dieu, et même lorsque nous l'envisageons à la lumière simplement de la bonne et simple philosophie, tout de suite et implicitement, lorsque nous nommons Dieu, nous désignons un être parfait, immédiatement. Un être parfait dont saint Thomas d'Aquin énumère quelques qualités. Il dit, Dieu, dès que nous le nommons, nous le comprenons comme quelqu'un d'absolument simple, omnino simplex, quelqu'un de parfaitement transcendant, distinct du monde, qui ne saurait se confondre avec la matière, puisqu'il est esprit. Dieu est esprit. Dieu également, dit-il, est d'une immensité infinie, immensus. Rien ne saurait le saisir, le résumer ou le comprendre, parfaitement en tout cas. Dieu est immuable, dans le sens où il n'est pas soumis au changement. Il n'y a pas ombre de changement en lui. Il n'est pas soumis au devenir des créatures. Dieu encore est éternel, éternus. C'est-à-dire qu'il est en dehors du temps. Nous comprenons Dieu surtout à partir de ce qu'il n'est pas. Alors, comme nous sommes dans le temps, eh bien, nous pourrons comprendre Dieu en sortant du temps. Et cela est une conséquence de son immutabilité, qui ne change pas, qui n'est pas soumis au temps. Enfin, Dieu également est parfaitement un. Unus Deus, il est unique, il n'est pas divisé en lui-même. Et c'est ce Dieu parfaitement un qui se révèle Trinité. Nous en reparlerons à la messe. Et puis tout de suite, lorsque nous contemplons Dieu, que nous considérons ses perfections en lui-même, nous entrevoyons rapidement différents attributs, différentes qualités qui vont manifester son infinie perfection, ses perfections, sa toute-puissance et sa bonté, sa justice et sa miséricorde, sa sagesse, son amour. Alors vous avez sans doute remarqué, car vous êtes attentive, c'est le début de la conférence, eh bien vous avez tout de suite remarqué comment je suis passé du singulier au pluriel. J'ai commencé cette causerie, si vous voulez, en disant que Dieu est l'être parfait, celui dont la perfection est infinie, et puis me voici en train d'énumérer des perfections diverses et variées, des qualités, des attributs de Dieu. Et cela est très, très significatif. Si vous voulez, cela montre combien nos petites intelligences sont incapables de comprendre Dieu tel qu'il est en lui-même, bien sûr, et en un éclair. Nous sommes obligés de saisir Dieu comme à tâtons, en essayant de saisir tel aspect de son être, de ses richesses. Et voilà pourquoi nous contemplons les perfections divines les unes après les autres. Et très souvent, la liturgie, qui est une école, une maîtresse d'éducation chrétienne, eh bien, va mettre tel dimanche, l'espérance par exemple, en avant, la bonté de Dieu, la miséricorde, sa justice, ça dépend des dimanches par exemple. Toutes ces facettes multiples de Dieu que nous sommes obligés de voir une à une, eh bien, cela est d'abord parce que nous sommes de pauvres intelligences, des créatures, et que nous avons du mal à saisir Dieu qui est absolument simple et absolument insaisissable à des créatures bornées, limitées, finies et dans le temps que nous sommes. Donc vous parlez des perfections divines, qui est le sujet de cette conférence, n'est pas forcément facile et simple. Et cela, encore une fois, nous ne pouvons pas faire autrement, pourtant, que d'agir ainsi. Cependant, vous connaissez sans doute la très belle épître de saint Paul aux Éphésiens que l'Église a mise comme épître de la fête du Sacré-Cœur. C'est saint Paul lui-même qui nous exhorte à tâcher de saisir l'insaisissable, de nous laisser saisir par le Christ, devrait-on peut-être dire, qui est le moyen d'atteindre Dieu, le moyen par excellence de le connaître, tel qu'il est. Et c'est donc dans son épître que vous pouvez lire, si vous voulez prendre ce texte comme sujet de méditation, c'est dans cette épître que nous trouvons cette phrase notamment. Donc, je tombe à genoux, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui tout Père au ciel et sur la terre doit sa paternité. Donc, il vous fortifie puissamment par son esprit pour que grandisse en vous l'homme intérieur et que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Enraciné dans l'amour, fondé sur l'amour, vous pourrez ainsi, avec tous les chrétiens, mesurer la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. En un mot, connaître cet amour du Christ qui défie toute connaissance. Vous allez pouvoir comprendre l'amour du Christ qui surpasse, qui défie toute connaissance. Nous comprenons quelque chose qui défie toute connaissance. Nous essayons de saisir celui qui est, par définition, dont la plénitude empêche d'être saisi. J'espère que vous saisissez. Alors, donc ce matin, je vais tâcher de faire, après cette trop longue introduction, je vais tâcher un peu de mieux comprendre, de mieux appréhender certains aspects des perfections de Dieu, et je le ferai en trois parties. D'abord, nous verrons combien Dieu est simple. Chose que j'ai dite à l'instant, mais que je vais davantage développer maintenant. Puis nous verrons que Dieu est parfait, et enfin nous verrons que Dieu est bon. C'est simple à dire. Ce n'est pas toujours si facile à expliquer, mais vous pardonnerez les limites du prédicateur et vous demanderez ensuite au Saint-Esprit, qui lui-même prêche la retraite bien mieux que personne d'autre, eh bien de vous éclairer mieux que je ne l'aurais fait. D'abord donc, Dieu est simple, infiniment simple. Cette simplicité divine, c'est le premier trait qu'étudie saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique. Et ce n'est pas une nouveauté, c'est vraiment le premier attribut que saint Thomas étudie quand il contemple Dieu, c'est la simplicité. Et il fait comme tous les théologiens qui, avant Descartes, évidemment, ne confondaient pas la simplicité avec l'infinité, ce sont deux choses différentes, et savait très bien que la première chose en Dieu qui est à saisir, c'est justement la simplicité. Dieu est simple. Alors cela veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord, petit 1, mais je ne veux pas vous faire un cours non plus, cela veut dire d'abord qu'il n'y a pas en lui de composition, d'assemblage, on pourrait dire, comme en nous, où il y a une âme et un corps. Dieu n'a pas de corps. Dieu est esprit. Je ne parle pas de l'incarnation. Dieu est esprit, il n'a pas de corps, nous dit saint Jean. Il n'y a pas de quantité qui viendrait s'ajouter, s'empiler les unes aux autres pour faire quelque chose d'absolument colossal qui serait Dieu. Non. Dieu n'est pas colossal. Dieu est majestueux. C'est différent. La majesté de Dieu est quelque chose d'infiniment transcendant qui, bien sûr, n'a rien de colossal. Bon. Dieu est ce qu'il est. Voilà la première appréhension de cette simplicité divine. Dieu est ce qu'il est, il est sa propre substance, sa propre essence, sans quantité ou tout autre accident qui viendrait s'ajouter à lui, qui viendrait le qualifier, le modifier. Il ne faut pas se représenter, ce serait l'imagination qui serait fausse, de s'imaginer Dieu avec des attributs qui viendraient le qualifier, des qualités, des accidents, en termes philosophiques, des accidents qui accèdent à une substance pour la modifier. Et comme nous avons telle quantité, tel poids, telle mesure, telle taille, tels attributs moraux, physiques, tout ce que vous voulez, qui viennent modifier et faire que chacun d'entre nous est unique à sa façon. Et heureusement, que nous sommes tous différents les uns des autres. Bon, mais c'est autre chose. Donc Dieu est ce qu'il est, il est sa propre substance, sans que, qu'aucun accident vienne le changer, vienne accéder à lui. Il est parfaitement donc un et simple. Dieu est tel qu'il s'est révélé dans le buisson ardent à Moïse. Tout simplement. Je suis celui qui suis. Voilà. Et va dire à tes frères, aux enfants des hommes, que celui qui est t'envoie de toute éternité. Dieu est. Et Dieu est simple quand nous disons cela. Tout simplement. Cela veut dire ensuite, petit 2 donc, qu'il n'y a pas en lui de changement, de mouvement. Nous nous connaissons, nous sommes dans... On m'entend bien, ça va ? Dieu, nous sommes dans le temps, sur terre, bien sûr, et nous savons combien tout ici-bas se meut, bouge. Nous ne nous baignons pas deux fois dans la même eau, disait un célèbre philosophe grec. Tous les êtres qui se meuvent ici-bas, tous les astres, les rotations des planètes, toutes les activités des hommes, bien sûr, tout ce bruit, j'étais hier à Paris, alors là, ça grouille de monde, de touristes, tout ce que vous voulez. Tout ce monde en devenir, tous ces mouvements, je voyais un ver de terre qui bougeait à moitié écrasé hier sur une route. Bon, passons, tout ce monde en devenir, tous ces mouvements que nous voyons, eh bien, Dieu en est absolument exempt. Bien plus, il est parfaitement immobile, immuable, et il est en même temps cause première de tout mouvement, puisqu'il est créateur. Tous les mouvements, comme réalité créée que nous appréhendons, tout cela n'existerait pas sans un premier moteur, une première cause du mouvement, mais Dieu lui-même est sans mouvement. Et Aristote disait qu'il est le moteur non mu. Donc il ne meut pas, il n'est pas mu lui-même, sinon il serait causé par autre chose. Il ne serait pas Dieu, pas parfait, mais il meut les autres. Il est cause, moteur, il meut, non mu. Bon. C'est cela Dieu aussi. C'est-à-dire un principe, une cause, sans principe et sans cause. Vous pouvez contempler cela, c'est une contemplation un peu métaphysique, j'entends bien, mais bien réelle, profonde. Dieu est, il ne change pas, il n'est pas un mouvement, il cause, il est principe, princeps, mais lui-même est sans principe, autre que lui-même, sans cause, autre que lui-même. Il est à lui-même sa propre cause. Il est Dieu, voilà. Dieu est, et cela de toute éternité. C'est-à-dire que en dehors du temps, en dehors du mouvement. Il n'est donc pas, puisque nous connaissons Dieu d'abord à partir d'ici-bas, donc à partir de ce qu'il n'est pas, il n'est donc pas toute cette agitation du monde, des corps, donc du monde créé, qui, certainement, toutes ces choses ne seraient pas sans lui, mais elles ne sont pas lui. Il ne faut pas les confondre. Dieu est absolument distinct, transcendant au monde. Pourquoi cela ? Eh bien, je l'ai dit, parce que nous, ici-bas, nous sommes divisés. Nous ne sommes pas simples. Ça, nous ne le savons que trop. Nous ne sommes pas simples. Nous sommes divisés en nous-mêmes, nous sommes des êtres complexes, sujets au changement. C'est saint Thomas d'Aquin, dans un opuscule sur les mœurs divines, qui dit que le premier, qui contemple justement cette première qualité de Dieu, d'être immuable, d'être constant. Dieu est toujours lui-même, il est toujours parfaitement identique à lui-même. Et il dit, par contre, les hommes, eux, la première qualité des hommes, ce en quoi ils sont absolument constants, c'est la constance. Là, nous nous retrouvons bien, constamment, des hauts, des bas, des changements, des états d'âme. Dieu, lui, est absolument sans inconsistance, sans inconstance, comme nous autres. Donc nous sommes complexes, divisés en nous-mêmes. Nous sommes composés, dit la philosophie, hein, de matière et de corps. De matière et corps, de forme et d'âme. Voilà. Nous advenons dans l'être. Il fut un temps où nous n'existions pas. Et peut-être que la terre s'en trouvait tout aussi bien. Et sera un temps où nous ne serons plus. Voilà. Nous advenons dans l'être. Nous commençons à exister. Et puis nous disparaissons. Et notre essence, notre existence sont distincts. Et non pas identiques, absolument purs et simples, comme en Dieu, qui est la simplicité divine, et où l'existence et l'essence sont parfaitement identiques. Ça va ? C'est un peu dur, mais c'est cela, la simplicité de Dieu. Enfin, troisième et dernier point, Dieu est de toute éternité. Je ne fais qu'un peu que reprendre déjà, en insistant maintenant sur l'éternité de Dieu. Qu'est-ce que l'éternité ? Eh bien, c'est que Dieu est dans un éternel présent, un présent qui ne passe pas. Alors que nous, nous vivons dans le temps, qui est la succession de l'avant et de l'après. Les temps sont fugaces, le présent, il vient de filer, il est déjà dans le passé, l'instant T qui est présent, hop, ça y est, il est passé dans le passé, il était du futur, il est devenu passé. Qu'est-ce que le présent ? Nous tâchons de vivre au présent et pourtant, à chaque instant, le présent se détruit, si je puis dire. Eh bien, Dieu est de toute éternité, dans un éternel présent. Et cela, des philosophes païens l'avaient remarqué. J'ai trouvé par exemple ce texte de Platon, c'est dans le Timée. Il disait ceci, Platon, qui est un philosophe donc grec, qui cherchait la vérité sans avoir la révélation, le pauvre. Le passé et le futur, disait-il, sont des espèces engendrées par le temps. Et lorsque nous les appliquons hors de propos à la substance éternelle, ce qu'il appelait Dieu, à la divinité, c'est que nous en ignorons la nature. Car nous disons de cette substance qu'elle était, qu'elle est et qu'elle sera. Or, en vérité, l'expression « est » ne s'applique qu'à la substance éternelle. Au contraire, « était »,« sera » sont des termes qu'il convient de réserver à ce qui naît et progresse dans le temps. Oui. Il avait bien compris que finalement Dieu est. Et nous, dans le temps, nous étions, nous serons, mais nous ne sommes pas. Au sens, nous sommes dans le mouvement. Nous sommes dans le temps et non pas en dehors du temps, dans l'éternité. C'est très simple à comprendre pour nous autres. Fut un temps où nous n'existions pas, et puis nos parents nous ont donné la vie, Dieu nous a donné une âme, et puis nous avons commencé d'exister. Et puis viendra un temps où nous disparaîtrons. Et on voit Saint Joseph au moment de disparaître, de quitter cette terre. On vit, on meurt, on trépasse. En Dieu, au contraire, eh bien, tout est. Absolument tout de Dieu est sans avant ni après, sans commencement ni fin, sans soumission au temps. C'est simple. Il n'y a dans l'éternité ni passé ni futur, il n'y a que cet éternel présent, sans commencement ni fin, dans ce que c'est Boès, hein, un philosophe du début du VIe siècle, nous dit, dans une possession toujours actuelle de lui-même. Dieu est l'acte pur, Dieu est en acte, il n'est pas en puissance, il est toujours pleinement ce qu'il est, il ne devient pas, il ne change pas. Eh bien, tout à la fois en Dieu est tout. Tota simul, disait Boès. Et cela dans un seul instant présent, éternel, un nunc stans en latin, un présent qui, un maintenant qui demeure, constamment. Voilà ce que signifie Dieu est de toute éternité. Alors, j'ai cherché quelques images peut-être pour vous recréer peut-être, et surtout vous donner quelques images qui parlent peut-être. Saint Jean Damascène dit joliment que Dieu est l'océan infini et sans rivage de la substance. Donc, vous voyez, pensez à un océan qui n'a pas de rivage. Bon. Donc imaginez la substance divine comme un océan sans limite. Et la vie éternelle, on peut dire ici que la vie éternelle, c'est comme une baignade, si vous voulez, sans fin. On peut traverser l'océan divin constamment, il n'y aura jamais de rivage, on arrivera, il n'y aura jamais de plage, il n'y aura pas de repos, si ce n'est dans l'élément divin qui est la divinité pure. Vous voyez, sans tempête, sans péril, sans crainte de perdre Dieu que nous posséderons dans l'éternité, et il n'y aura pas de coup de fil, pas de coup de sifflet final, si vous voulez, pour vous dire, ah, il faut sortir du bassin, c'est fini la baignade. Non, ce sera Anunc qui demeurera éternellement. Nous serons éternellement à nous baigner dans l'océan divin. Vous voyez, j'y pensais, il faisait très chaud à Paris quand j'écrivais ça, et c'était rafraîchissant de s'imaginer ainsi cette éternité de Dieu, cette divinité, cet océan divin, sans limite, sans fin. Et puis, comme disait une carmélite, on ne se lasse pas de regarder la mer. Si vous avez vu la mer déjà, c'est fascinant. Eh bien, Dieu, c'est plus que cela encore. Autre image, par opposition, quoi qu'il y ait un rapport, le désert. Si vous allez au désert, où il fait chaud, eh bien, on parle de mer de sable, d'océan de sable. Donc, c'est aussi une étendue infinie qui se présente sous nos yeux. Si vous avez fait l'expérience d'aller au Sahara, par exemple, vous voyez tout d'un coup cette immensité de sable à perte de vue, le silence complet, il n'y a pas de vie, tout est mort, tout est absence de vie, absence de mouvement, solitude parfaite, complète. On est là, seul. Et comme il n'y a pas de mouvement, qu'il n'y a que l'horizon, ce silence, et puis cette chaleur aussi, eh bien, infailliblement, on regarde en haut, on lève la tête, on regarde au ciel. Vous voyez, on passe de l'horizon à la dimension verticale. Et là, on a aussi une image, certainement, de la transcendance de Dieu, qui est présent à tout, partout, en un instant. Il n'y a pas un coin d'ombre, donc le soleil est partout, en un instant, inonde tout, le soleil inonde l'immensité du désert. Et vous avez ici, donc, une belle image de cette absolue transcendance de Dieu, simplicité aussi, duquel rien n'échappe. Et on peut se poser la question de savoir, mais qui sommes-nous, nous, pauvres pécheurs, pauvres créatures, pour nous approcher ainsi de Dieu, de ce feu ardent, comme dit saint Paul, qui est un feu consumant, c'est saint Paul, oui, aux Hébreux. Notre Dieu est un feu consumant, absolument simple et parfait, et à son contact, tout s'embrase. C'est ce que nous allons voir dans un instant avec Moïse, au buisson ardent. Donc il est tout entier, ce feu divin, lumière et chaleur, comme au désert, voyez. Son amour est insatiable, dit Don Jean de Mauléon, il détruit tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas lui. Il embrase tout ce qui veut bien se laisser enflammer. Voilà une belle image, un beau texte qui nous met au contact de Dieu transcendant, à la fois si, vous l'avez vu par ces quelques considérations, si éloigné, si insaisissable, et en même temps si proche, aussi proche que le soleil nous est présent chaque jour de nos vies. Et cela est une image de... Encore une fois, de la transcendance, de la sainteté de Dieu. Dieu est saint, ça veut dire qu'en lui, il n'y a rien d'impur, rien de commun avec notre pauvre monde, corruptible et passager. Sainte Élisabeth de la Trinité disait « Dieu est un feu d'amour qui transforme en lui-même tout ce qu'il touche. » Dieu est un feu d'amour qui transforme en lui-même tout ce qu'il touche. Voilà une bonne compréhension de la simplicité de l'être de Dieu, au contact duquel tout s'embrase. Et nous pouvons encore méditer quelques instants, il ne faut pas que je sois trop long, sur l'épisode du buisson ardent, que vous trouvez donc dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. Je vous lis la parole, le texte de la Bible. Moïse faisait paître le bétail, le petit bétail, le troupeau de Jéthro, son beau-père. Il l'emmena, le troupeau, pas le beau-père, il l'emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. Donc ici, nous avons une image de la retraite. Vous voyez, vous êtes parti, vous avez été emmené au désert de Flavigny, dans la solitude de Flavigny, faire silence, et vous parvenez à la montagne de Dieu, où Dieu se tient en présence. C'est le tabernacle, bien sûr. C'est aussi la majesté de Dieu vers laquelle vous vous approchez par, eh bien, votre détachement du monde, en ayant tout quitté pour venir ici, dans le désert, la solitude. L'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Moïse regarda. Le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, dit-il. » Et il répondit, « Me voici, Atesoum. » Une belle ici, je vais pas gloser, mais vous avez bien d'abord Dieu qui connaît particulièrement sa créature, choisie par lui, Moïse. Et ce dialogue, Dieu, si transcendant, eh bien, s'abaisse à discuter, à communiquer, à s'entretenir avec les enfants des hommes. Il dit, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » C'est encore l'usage en Orient de se déchausser dans le lieu saint. C'est encore même chez les musulmans, par exemple. C'est vrai aussi au Japon. Je crois que j'avais un confrère qui m'avait raconté un jour qu'il avait... Donc il faisait escale au Japon, en revenant en Europe. Enfin, un confrère qui habitait loin, enfin qui vivait aux Philippines ou par là, qui était ou en Australie, je ne sais plus. Il faisait escale au Japon. Il avait le temps d'aller dire sa messe. Donc il était allé dire sa messe. Et puis il a compris qu'il fallait qu'il enlève ses chaussures, parce que là-bas, semble-t-il, les prêtres célèbrent la messe sans chaussures. Et il savait pas ça. Et il était très gêné parce qu'il avait un trou à sa chaussette. Donc, je saurais si un jour je dois passer par le Japon, qu'il faut que je fasse attention. Bon. Et ensuite, alors les Japonais, qui sont des gens très, très, très délicats, l'ont raccompagné et lui ont offert un paquet de chaussettes. Enfin, des chaussettes. Bon, excusez-moi. Alors, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il dit, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Puisque donc Dieu dit à Moïse d'aller délivrer, conduire son peuple, le faire quitter l'Égypte, où il est tenu en servitude. Donc, j'irai donc vers le peuple, j'obéirai à l'ordre de Dieu. Mais s'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je? Et c'est alors que Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ego sum qui sum. Et il dit, voici ce que tu diras aux Israélites, celui qui est, m'a envoyé vers vous. Celui qui est, je suis celui qui suis, c'est, vous savez, le nom par excellence que les Juifs encore, eh bien, vénère dans le tétragramme qu'on traduit par Yahvé, Yahweh, Yod et Vaou et ça fait Yahvé, qui exprime encore pour les Juifs actuels l'idée la plus approchante de ce que peut être la nature divine. Eux n'ont pas encore la révélation de la Sainte Trinité explicite en Jésus-Christ. Donc, Dieu est celui qui est de toute éternité. C'est déjà la révélation de la simplicité divine qu'aucune intelligence humaine ou créée ne peut parfaitement saisir. Et cela fait que, et d'ailleurs dans le, enfin, aujourd'hui je ne sais pas trop, mais dans l'Ancien Testament, le grand prêtre, une fois par an, lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints, au temple de Salomon, enfin au temple de Jérusalem, disait ce mot Yahweh, je suis celui qui est. Mais sinon, les Juifs n'utilisaient jamais ce mot. On utilisait Elohim, enfin Dominus, enfin le Très-Haut, le Seigneur, mais on ne disait pas ce mot sacré entre tous qui exprimait cette éternité de l'être divin, cette ipsum esse subsistens, dira saint Thomas d'Aquin, cet être lui-même qui subsiste et qui est de toute éternité. Et c'est cette affirmation de l'éternité de Dieu de l'éternité de l'être divin que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même va reprendre à son compte. Et cela sera un scandale pour les Juifs qui l'écoutaient. Hein. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, avant qu'il n'existât, eh bien, je suis ego sum. Et alors, il est écrit que les Juifs prirent des pierres pour le lapider parce qu'il s'était, alors qu'il n'était qu'un homme, il se faisait Dieu. Et c'était pour eux, bien sûr, un blasphème. Donc, telle est bien l'expression la plus conforme ou adéquate de la simplicité divine, que je voulais un peu vous faire saisir, j'espère, c'est celui qui est, et qui est de toute éternité. Telle est donc la simplicité divine de l'être de Dieu. Deuxième partie, qui sera plus courte, Dieu est parfait. Lorsque nous affirmons cela, nous ne disons pas que Dieu acquiert des perfections. Comme nous disons qu'un bon vin se bonifie avec le temps dans une bonne cave. Ou qu'un enfant grandit pour se perfectionner et devenir un être adulte, atteindre l'âge parfait, comme aurait dit saint Paul. Non, nous disons que, quand nous disons cela, nous disons que Dieu est parfait en acte, maintenant, toujours, de toute éternité, définitivement et totalement. Dieu ne change pas. Autre attribut, autre perfection divine, qui découle de sa simplicité. Hein. Tout en Dieu est simple. C'est nous qui devons, je répète, diviser pour mieux saisir. Alors, vous pouvez comprendre, soyons concrets, n'importe quelle perfection ici-bas, n'importe quoi, un gâteau excellent, c'est un bon gâteau qui a été fait avec art par la maîtresse de maison, donc un bon gâteau excellent, succulent, un vin capiteux au bouquet délicat, le vin de Cana, bien sûr. Vous pouvez prendre le site le plus paradisiaque, nous sommes à Flavigny. On ne se lasse pas de voir ce panorama, cette vue extraordinaire. Vous pouvez prendre n'importe quel plaisir, le plus achevé, le plus l'œuvre artistique la plus parfaite. Il y a de très belles choses ici, des tableaux, n'importe quoi, des statues. Eh bien, toutes les perfections, les beautés, les plaisirs, l'excellence que nous pouvons connaître ici-bas, eh bien, se trouvent de façon suréminente en Dieu, de manière bien plus parfaite, parce que Dieu est cause de tout être, de tout bien et de toute perfection. Quelle que soit la perfection que vous trouvez dans une créature, qualité morale ou physique, intellectuelle, vous pouvez, quelle que soit sa sainteté à une créature, vous pouvez prendre la sainteté de la Sainte Vierge, eh bien, elle est cette perfection, la pureté de la Vierge Marie, sa maternité, sa bonté, sa miséricorde, puisqu'elle tenait, au moment de son fiat, la place de toute l'humanité qui était suspendue à ses lèvres. On peut dire que la Vierge Marie a eu pitié de nous en accomplissant sa mission. Elle a obéi à Dieu, bien sûr, mais elle a aussi une part de miséricorde, en sachant également porter son fils jusque à la croix, eh bien, toutes ces perfections que nous admirons chez les saints, ces grandeurs, eh bien, ces perfections sont plus parfaites encore en Dieu, auteur de tout bien et auteur de toute perfection. Voilà pourquoi nous rapportons à Dieu tout honneur et toute gloire. Le bien que nous faisons, vous voyez, notre être, nos qualités, il y en a quand même en chacun de nous. Nous ne sommes pas que des défauts, des pécheurs. Nous avons aussi des qualités, des talents reçus. Eh bien, tout est entre les mains du bon Dieu, créateur de tout bien et de toute perfection. C'est Dieu qui est parfait. C'est Dieu, je le dis souvent, c'est Dieu qui sanctifie. Souvent on dit, il faut que je me sanctifie. C'est faux, c'est Dieu qui sanctifie. Et nous avons à ne pas faire obstacle à la sainteté de Dieu qui veut s'épanouir en nous-mêmes, par notre collaboration, par notre liberté, nos vertus. Nous y reviendrons tout au long de la retraite. Voyez, que nous puissions imiter Jésus-Christ, le prier bien sûr d'abord, mais l'imiter, participer à la vie divine par la grâce, la charité en particulier, mériter en justice pour la vie éternelle, toutes ces biens, sont des talents, des dons reçus de Dieu, qui nous élève à lui, qui nous élève à son être, à sa perfection, à son bien qu'il est lui-même. sais pas comment dire les choses de manière peut-être plus saisissante. Il est vraiment un père qui s'occupe de ses enfants, qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Et tout ce que nous recevons de lui, eh bien, sont, en lui se trouve sur un mode suréminent, plus excellent que tout, eh bien, se trouve en lui achevé, parfait, en acte. Voilà. Que nous puissions épouser des mœurs divines ici-bas, vivre comme les anges, par exemple, imiter leurs prières, leur sainteté, leur pureté, ce que font les religieux, par exemple. Tout ce que nous pouvons faire par charité, tout cela, c'est une participation à la perfection de Dieu. On peut dire autre chose. Et nous serons jugés sur cela, sur cette participation, sur cette ressemblance que Dieu cherche, scrute en nous. Dieu scrute parmi les enfants des hommes s'il aura justement cette ressemblance, cette imitation des perfections divines par ses créatures qu'il a créées pour cela. Voilà ce que disait une carmélite de Dijon, donc Sainte Élisabeth de la Trinité, peu de temps avant de mourir, en novembre 1906. Elle disait ceci. « À cette dernière heure de mon exil sur la terre, à ce beau soir de ma vie, elle avait 24 ans et elle allait bientôt mourir. Elle était malade. Donc à cette dernière heure de mon exil, à ce beau soir de ma vie, comme tout me paraît grave sous la lumière qui me vient de l'éternité, je voudrais pouvoir me faire entendre de toutes les âmes pour leur dire la vanité, le néant de ce qui passe sans être fait pour Dieu. » Et on voit une sainte religieuse ici qui réalise toujours plus et mieux combien tout, rien n'a de valeur si ce n'est fait, si ce n'est pas fait pour Dieu, si ce n'est pas fait à la lumière qui lui vient de l'éternité, si ce n'est pas fait sous le regard de Dieu, si parfait, qui, justement, eh bien, nous élève à sa perfection, inlassablement, jour après jour. Donc Dieu est de toute éternité, nous l'avons vu, et puis Dieu est parfait, et tout ce qui est fait en dehors de lui est vain, vanité des vanités, absolument vide, inutile pour la vie éternelle. Oui. Cela signifie aussi que Dieu seul est bon par essence, désirable pour lui-même, parce que c'est en raison de sa perfection que une chose, n'importe quoi, est dit être bonne. Une chose est bonne parce qu'elle possède une perfection. Et donc lorsque nous disons que Dieu est bon, pardon, c'est en fait parce qu'il est le bien parfait, qu'il a toutes les perfections. Et c'est cela qui va me conduire à ma troisième et dernière partie, en 5 minutes. Dieu est bon. C'est parce qu'il est parfait qu'il est bon, et puisqu'il a toutes les perfections, il est souverainement bon. Voilà le raisonnement formel que vous aurez saisi, bien sûr. Donc, passons à cette bonté de Dieu qui découle de sa perfection. Puisqu'il a toutes les perfections, il est souverainement bon. Et c'est cela que nous disons lorsque nous disons « Dieu est bon, le bon Dieu ». En parlant du bon Dieu, nous ne faisons que dire sa nature même, qui est d'avoir toutes les perfections. D'être très parfait, parce qu'il est, de toute éternité, tout simplement. Alors Dieu est bon. Dieu donc n'est pas seulement l'être parfait, existant par lui-même, de toute éternité. Il n'est pas seulement le premier moteur, comme on a dit avec Aristote, ou acte pur, sans changement, sans ombre de changement. Dieu est encore donc principe et cause de tout bien. Il est créateur, il est le premier agent, dit la philosophie, la théologie, cause de toute chose, de tout être et de toute perfection. Et s'il l'est, c'est parce qu'il est bon. Saint Denis dit que Dieu, alors en latin c'est toujours plus beau, est omnia ut omnium causa. C'est ça, il est toute chose, est omnia ut omnium causa, en tant qu'il est cause de tout, qu'il est cause de toutes les choses, de tous les êtres, et donc de toutes les perfections, et donc, j'y arrive, de tout bien, puisque toute perfection est un bien. Pour dire les choses simplement, peut-être, Dieu est le bien par excellence, il est la bonté, comme il est l'être par excellence. Donc il a dit, je suis celui qui suit, ego sum qui sum, il pourrait tout à fait dire, Dieu dit, je suis le bien. Je suis celui qui est la bonté même. Et le Christ lui-même l'a dit au jeune homme riche, Dieu seul est bon. C'est la même chose, mais c'est la même idée. Dieu est la bonté par excellence. Dieu seul est bon. Or, vous savez que le bien, c'est naturellement ce que nous désirons. Nous ne désirons pas le mal. Nos facultés, notre activité intellectuelle, morale, volontaire, est toujours ordonnée à un bien. Voilà ce que dit le Concile de Florence, c'est en 1439. Le vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est le créateur de toutes choses visibles et invisibles, qui, quand il l'a voulu, a créé par bonté toutes les créatures, tant spirituelles que corporelles. Bonnes, assurément, parce qu'elles ont été faites par le souverain bien. Mais muables, ces créatures, parce qu'elles ont été faites à partir du néant, et elle affirme, l'Église, que le mal n'est pas de nature, parce que toute nature, en tant qu'elle est nature, créée par Dieu, est bonne. Donc, vous voyez, parce qu'en Dieu nous trouvons la raison de tout bien, de toute perfection, de tout être créé qui a du bien quant à sa nature, eh bien, nous disons que Dieu est souverainement aimable et désirable, parce que lui-même a toutes ses raisons d'être aimé, mais selon un mode plus excellent que tous les modes que nous pouvons trouver dans les créatures. C'est encore Saint Thomas d'Aquin qui le dit, il parle d'un mode suréminent en Dieu de bonté, d'objet de désir. Voyez, si je pourrais prendre l'exemple de l'amour humain, d'un fiancé qui regarde, ou d'une fiancée qui a les yeux de Chimène pour son Rodrigue, eh bien, en Dieu, il y a bien plus que Rodrigue. Selon un mode beaucoup plus excellent, il y a la beauté, la bonté, la perfection, éminente, suréminente, qu'on ne désirera jamais assez. On pourra éventuellement se lasser de Rodrigue, même si on est une Chimène, on ne se lassera pas de Dieu, parce qu'il est sur un mode suréminent, toute beauté, toute bonté. Toute bonté préexiste en Dieu, voilà ce que je suis en train de vous dire, excellemment. Et c'est ce que nous dit donc la théologie. Chaque être a une nature qui possède une bonté particulière, aussi, il faut le dire, mais cette nature n'est qu'une nature participée. Et je voudrais rapidement, parce que je voudrais rapidement vous montrer comment dans les êtres créés par Dieu, nous trouvons différentes manifestations encore des perfections divines selon différents modes. Mais en Dieu, tout est simple. Exemple. Qu'il y ait, donc, dans les êtres, des degrés de perfection. Différents degrés de nature, de perfection, de bonté. Des êtres plus ou moins bons, plus ou moins parfaits. Eh bien, cela est assurément un effet de la bonté de Dieu, qui se diffuse, qui se communique, qui participe, qui fait participer ses créatures à sa perfection. Et cela, donc, est rapporté à la bonté. Mais cela est aussi à rapporter à la justice de Dieu. Parce que Dieu donne, librement, mais selon ce qui convient à chaque nature. Vous voyez, vous avez des organes, vous avez des yeux, des bouches, enfin une bouche plutôt. Vous avez des qualités intellectuelles, morales, une raison. Vous pouvez prier, vous avez une nature spirituelle à côté de votre nature corporelle et animale. Et cela est un grand bien. Mais cela est aussi une juste. Dieu nous a créé avec une nature, si ce n'est parfaite et achevée, en tout cas, une nature bonne. Et il nous a créé avec justice. Vous voyez? Dieu est bon, mais Dieu est juste aussi. Et il est juste aussi lorsqu'il nous fait participer par les mérites à des œuvres bonnes, méritoires pour la vie éternelle. Et puis Dieu donne aussi librement, je le dis, avec profusion, avec libéralité. Donc vous voyez, Dieu quand il crée, il est juste, il est bon, mais il est aussi libéral. Il crée, il nous sans intérêt ou sans utilité pour lui-même. C'est librement, en toute libéralité, parce qu'il est bon et qu'il diffuse, qu'il épanche sa bonté. Eh bien, c'est pour cela que Dieu est dit avoir aussi la libéralité dans tout ce qu'il a créé. Cette infinie diversité du monde, eh bien, c'est un effet de sa bonté. Et en même temps, Dieu donne et octroie toutes sortes de perfections, de biens aux créatures, mais également pour aller au-devant de nos manques, de nos déficiences, de notre pauvreté. Et cela, ça s'appelle la miséricorde. La miséricorde, ce n'est rien d'autre qu'une bonté qui va au-devant d'une misère, d'un défaut. Et bien, c'est cela. Vous voyez, Dieu, la bonté de Dieu peut s'exprimer de différents mots en fonction de la manière dont elle s'exerce, mais ça reste toujours le fait que Dieu est bon. Qu'il soit juste, libéral, miséricordieux, c'est toujours parce que Dieu est bon. Donc voilà un petit peu quelques considérations, j'espère pas trop théoriques, sur la bonté de Dieu, en soi la plus désirable, aimable par soi, parfaitement, et en même temps cause en nous de tout le bien que nous pouvons pratiquer pour le ressembler, nous approcher de lui. Cela a une conséquence rapide, enfin je fais en 2 minutes, signifie pour nous, bien concrètement, que lorsque notre intelligence connaît le vrai, la vérité, elle atteint son bien. Le bien d'intelligence, c'est la vérité, c'est son bien. Et donc connaître le vrai Dieu, connaître Jésus et Jésus crucifié, c'est ce que nous ferons toute cette semaine, c'est cela aussi, c'est un bien pour notre intelligence, qui ne cherche pas à droite et à gauche parmi les idoles, qui va vite au but la foi. La foi est cette lumière qui vient éclairer notre intelligence pour lui donner son bien, la vérité, qui vient l'arracher à l'erreur, au doute, à l'ignorance, pour lui donner la vérité. Autre application bien concrète, lorsque notre volonté est correctement dirigée, corrigée et conduite au bien, à mettre son cœur là où sont les vrais biens, hein, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur, dit notre Seigneur en Saint-Luc, eh bien, c'est bien sûr un effet de la charité et de l'espérance. Nous espérons posséder le bien parfait un jour, et nous appuyons sur les secours de Dieu pour l'atteindre, mais nous aimons d'ores et déjà le souverain bien par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ça la charité. Non pas seulement de connaître Dieu, mais de l'aimer, d'être unis à lui dès maintenant. Et cela est un effet de sa bonté, que Dieu nous donne la foi, l'espérance et la charité, j'y viens, eh bien c'est un effet de la perfection, la simplicité et la bonté de Dieu. En conclusion, ce sera donc ma conclusion. Donc, lorsque nous considérons la simplicité divine, sa perfection et sa bonté, nous sommes conduits, bien sûr, à entrevoir combien est belle et sainte, et il faut vraiment chaque jour nous en convaincre davantage, combien est belle et sainte notre religion catholique, qui nous donne tellement, qui nous donne donc de connaître le bien de notre intelligence et de nous donner à aimer le bien de la vie éternelle. Et je prendrai une image toute simple, j'espère qu'elle n'est pas trop boiteuse. Il me semble que nos vies sont un petit peu comme la trajectoire d'une flèche. Si vous avez fait du tir à l'arc, déjà. Bon. Comme la trajectoire d'une flèche. Dieu nous a créé, il a créé la flèche. Et il a créé, bien sûr, une flèche intelligente, avec notre raison, notre libre arbitre, pour se diriger vers la cible. La cible, c'est Dieu lui-même, bien sûr, qui est la fin, ce pourquoi nous avons été créés, pour le louer, l'honorer, le servir, l'aimer, comme dirait saint Ignace. Mais pour nous aider, donc non seulement il nous montre la cible, il se révèle à nous, c'est le Dieu de Moïse qui se révèle dans le buisson ardent, c'est le même Dieu de Jésus-Christ qui se révèle donc par Jésus-Christ lui-même, Trinité. Donc il nous montre la cible, la fin, le bien parfait qu'il est lui-même, souverainement aimable, désirable, nous désirons la cible. La flèche n'a de sens, n'a de but que dans le fait d'atteindre la cible. Mais aussi, il nous dirige. Il est le Sagittaire qui lance la flèche, si vous voulez, pour prendre l'image. Il nous dirige comme un Sagittaire qui meut nos facultés par la foi, l'espérance, la charité, la vie surnaturelle, la prière, la pénitence aussi. Et il corrige aussi nos trajectoires. quand nous manquons, nous dévions complètement par le péché, que nous tombons, que nos trajectoires sont trop défaillantes, eh bien, il va nous réemployer malgré nos chutes, malgré nos fautes. Et quand nous faisons fausse route, juste tant qu'il y a de la vie, eh bien, il va essayer. Dieu va reprendre la flèche pour la remettre dans le bon sens, dans le bon chemin. Vous voyez la bonté, la perfection de Dieu qui nous dirige, nous conduit, comme par la main. Et la main de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est par l'humanité sainte de Jésus-Christ que nous sommes conduits à la cible, à la fin surnaturelle, qui est le Dieu bon et parfait, simple à posséder. Et donc, ayons toujours à l'esprit cette grande vérité, je pense, pour mieux connaître Dieu, bien sûr, le servir, l'adorer, l'aimer, en nous souvenant que, comme votre Père céleste est parfait, vous aussi soyez parfaits et marchez en ma présence, dit Dieu en saint Matthieu. Voilà. Je vous laisse donc aller méditer ces choses, peut-être un petit peu, dans vos cellules ou à la chapelle ou en marchant. La messe est à 10h15.